Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Comme quoi le tourisme industriel mène à tout. Je résume. Visite au moulin, qui est en réparation, le moulin de Bertrand Lepleut, donc est abîmé et réparé. Le lendemain, excursion aux mines de plomb de Bertrand. Sa femme et Fifi le représentent, monsieur, à une crise de goutte. On a pu se rendre compte que l'investissement social de ces deux femmes est extraordinaire. Elles donnent de leur personne, épisode à ne pas mettre entre toutes les mains. Une courte nuit chez Bertrand Lepleutre et à Potron Minet, droit à l'ouest. J'ai la tête comme une coucougnasse. Mais on est en mission pour le Seigneur, on ne peut pas reculer. On va suivre la voie romaine sur quelques lieux et on s'enfoncera à droite dans une forêt de chênes qui débouche sur le défilé des Virades. En tout cas, ce sont les explications que nous donne le chasseur qui connaît le quartier. Le moine qui a fait sa réserve de mine de plomb pour ses travaux d'écriture est Guilleret et fredonne la chanson de Jeannot le Bien-Monté. Ti-ta-ta-ta-ta, ti-ta-ta-ta-ta-ta, enfin bon, je ne sais pas comment cet homme fait, mais il a une santé de fer. Pendant la représentation, il a tenu à prendre le rôle de Jeannot le Bien-Monté. J'avoue qu'il n'a pas du tout été ridicule et que son interprétation, quoique très personnelle, a beaucoup plu. Je me demande juste comment il peut monter à cheval après ce que les dames lui ont fait subir. Il ne pleut pas, juste couvert. Nous sommes lavés, rasés de frais. Il y en avait besoin après notre séjour chez les charbonniers. Les mules sont reposées, que demander de plus? Bien entendu, le soleil se montre pile quand nous entrons dans les sous-bois. Vers midi, alors que nous installons pour manger près d'une source, surgit un cheval écumant au pas avec un homme accroché à la crinière. On arrête la bête, l'homme tombe, il est blessé à la tête. On l'assied, il reprend son souffle et explique. Personnellement, je comprends pas. Il parle une espèce de patois. Le chasseur qui a l'air de saisir nous traduit. Sa femme et sa fille seraient mortes tuées par le diable. On le fait boire, lui lave le visage. Le moine le soigne avec le fameux onguent qui soigne tout. Et pour résumer, voilà ce qu'on a compris. Un moine prêcheur, qui ressemblerait curieusement à celui qui a fait un séjour chez nous, leur demande l'hospitalité. Il lui offre. Après le repas, l'homme est sorti chercher de l'eau. Il a entendu des cris. Comme il rentrait, le moine est en train d'égorger sa fille et sa femme. La fille, d'ailleurs, gît à terre agonisante. Le moine en transe, avec les yeux de fou, se jette sur l'homme qui se défend en prenant une branche enflammée dans le feu et lui écrase sur le visage. Profitant de la douleur du fou, le paysan sort et s'enfuit sur le cheval du moine et nous tombe dessus. Si on a bien compris, il n'y a pas une heure que c'est arrivé. Le chasseur me prend à part et demande l'autorisation de poursuite et de mort. Je réserve ma réponse et propose que nous allions d'abord sur les lieux du crime, au moins enterrer les morts. On fait. Le paysan nous guide, nous marchons en restant sur nos gardes. Le fou rôde peut-être dans le coin. Alors, le chasseur, l'arbalète chargée à la main, marche sur le flanc droit. 20 mètres devant nous, le moine mène les mules. Le paysan suit à cheval et je ferme la marche sur la gauche en serrant les fesses. Je ne suis pas habitué à ce genre de situation. Les premières gouttes tombent quand nous arrivons chez le paysan. Je suis pas bégueule, mais le spectacle n'est pas joli, joli, joli. Le paysan tombe à genoux et pleure toutes ses larmes de son corps. Dans la cabane, on trouve la mère et la fille égorgées, et tout autour de la maison, plus rien de vivant. Les poules, un chat, un cochon, une chèvre, tout a été zigouillé. On passe l'après-midi à creuser des tombes pour donner une sépulture chrétienne aux mortes. Je dois reconnaître que le moine s'est donné beaucoup de mal pour leur ouvrir les portes du paradis. Le paysan met le feu à sa cabane, on jette les cadavres d'animaux dans le brasier, et l'on va pour partir quand apparaît un chien qui fait fête au paysan. On comprend qu'il est parti depuis 2 jours poursuivant une harde de sangliers. Le moine se portant témoin, je donne autorisation au chasseur de faire justice au nom de la reine. S'il trouve l'assassin, bien sûr. Si on ne retrouve pas le moine fou, on lancera un arrêt de mort sur sa tête au prochain château qu'on rencontre. Le paysan veut absolument partir avec le chasseur. Comme celui-ci refuse, en désespoir de cause, le paysan lui dit de prendre le chien qui a un odorat d'enfer. On fait sentir à la bête la couverture de celle du moine. Le chien fait 2 fois le tour de la clairière et pique vers l'ouest. Le chasseur suit et disparaît. Il est convenu qu'il nous retrouvera dans la plaine des Fagnes, au Grand Marais, dans 1 semaine au plus. C'est un coin que je connais un peu. Il paraît que c'est là que commence mon histoire, d'ailleurs. Enfin, on y reviendra en temps et en lieu. Pendant que j'y pense, je sais pourquoi les charbonniers n'ont pas de garçons. Et on me l'a dit. Ils tuent les filles à la naissance. C'est ce que m'a dit le chasseur. On n'a pas fait un lieu dans la châtaigneraie qu'un arbre au travers du chemin nous arrête. Comme on cherche à le contourner, des voix sympathiques nous ordonnent de ne pas bouger. Derrière nous, 10 de lascars en armes nous surveillent. Parmi eux, 2 fières donzelles, seins nus, badigeonnées de sang, nous font des grimaces et nous tirent la langue. J'avoue que j'hésite entre le rire et l'étonnement. Je savais qu'on allait finir par tomber sur ces drôles, mais pas aussi vite. Ils nous demandent de descendre de nos mules et de nous écarter. Les 2 folles s'interposent entre les bêtes et nous. Malgré le bizarre de la situation, je reprends mon sang-froid. Je viens de reconnaître 2 des loustiques qui font partie de la bande des bras cassés, qui rançonnent les voyageurs égarés. Le moine en reconnaît 2, dont 1 à Nichon. Comment se fait-ce ? Mystère, l'agressivité retombe. Ils hésitent entre être déçus qu'on ne soit pas des étrangers à rançonner et surpris de nous voir. On échange les nouvelles tout en marchant pour rejoindre leur campement. Alors ces coquets, châtaigniers et granit, genre petite clairière, avaient juste le mobilier qu'il faut. Ils ne risquent pas la faute de goût, décoration minimaliste, j'aime assez. Un coin cuisine, 3 petites cabanes, 1 dortoir plus vaste, du linge qui sèche aux branches, quelques tentes et c'est tout. On sent que tu peux partir à tout moment, tu ne seras pas encombré par les bagages. Dans un enclos, vers la droite, quelques montures, baudets, mulets, chevaux, fruits de rapines antérieures. Les poules s'occupent du crottin et les porcs glandent. Précision, ils glandent, oui, mais des châtaignes. En gros, un petit paradis. Les 2 dépoitraillés se sont rajustés et je ne peux m'empêcher de poser la question du pourquoi du comment de cette attitude. Tout en faisant compliment des nichons de ces dames. On n'est jamais assez prudent avec les femelles. Elles n'ont pas le temps de me le dire que celui qui semble être le chef fait mettre en perse un tonneau de bière et nous explique qu'ici le pouvoir est partagé à égalité avec les femmes. Il nous remplit de coupes et fait les présentations. La rousse qui plume une poule, Pulcelle c'est son nom, est la chef des expéditions de raquettes. La chef de guerre, Willibert, c'est celle au gros nichon. Lui, il fait office de grand patron. C'est un nain de jardin avec un pied en moins. Il se déplace à l'aide de belles béquilles en chêne. Il semble tenir la maison en bon ordre. Alors, je fais une liste pour vous. À part lui, la rousse et les nichons, dans le désordre, nous avons 1 bûcheron, 1 maréchal ferrant, plusieurs guerriers venus de je ne sais où, 2-3 familles de paysans qui ont tout perdu, 3 barbares, 1 vieux druide aux ordres de Bacchus, 1 moine défroqué, 2-3 filles de joie, 1 charbonnier et 1 certain nombre d'origines inconnues. Pour résumer, c'est une espèce de communauté de laissés pour compte, de fracassés de la vie et d'hommes libres. Hommes et femmes sont à part égale et les enfants n'ont pas l'air de se faire chier. Hein. On lui explique l'aventure tragique du paysan. Il lui propose au paysan de rester le temps qu'il veut et envoie des hommes aux 4 points cardinaux à la recherche du tueur. Au cas où, comme il dit. Une question le turlupine quand même. Pourquoi le château les laisse tranquilles au milieu de leur forêt? Je lui dis que je ne sais pas tout, mais que j'ai cru comprendre que pendant qu'ils sont là, ils font pas de bêtises ailleurs. Tant qu'ils ne tuent pas systématiquement, ils sont tolérés. La reine ne veut pas risquer des vies humaines pour une opération de police aux résultats aléatoires. En gros, vu du château, il faut mieux que le statu quo demeure. Le chef pense que c'est une bonne idée. Chacun chez soi et les cochons seront bien gardés. Quelques camarades se joignent à nous, on fait péter un jambon et d'autres charcutailles en parlant de tout et de rien. Un qui parle bien nous explique quelques lois en vigueur dans le camp. Je vous cite celles que j'ai retenues. C'est pas parce que tu travailles que tu dois faire chier les autres. Tu ne forniqueras pas la femme du voisin si elle te l'a pas demandé poliment. Tu es obligatoirement volontaire pour les travaux collectifs. Tu as le droit de rien foutre, mais faut pas gêner. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est le chef qui a raison, enfin voilà, etc., etc. Changeant complètement de sujet, Asselin, le forgeron, demande si le prêtre peut le marier. On rétorque qu'il faut être deux pour se marier, un homme et une femme. Comme il ne manque pas d'humour, il dit qu'il fera l'homme et siffle une belle luronne qui étend le linge. Elle nous rejoint genre « je travaille, moi ». C'est pourquoi t'es-ce ? Asselin lui dit, on a un prêtre sous la main, on en profite et on devient mari et femme, lui rétorque le forgeron. Elle rougit de plaisir et essuie une larme du coin de l'œil. Varin, c'est le chef qui s'appelle Varin donc, trouve l'idée intéressante et demande au prêtre s'il peut officier, où et quand et comment. Après avoir expliqué qu'il n'est pas prêtre mais moine, frère Abelaine réfléchit longtemps, fronce les yeux et dit que techniquement ça ne pose pas de problème. Mais qu'il faudrait au minimum que les futurs époux soient baptisés dans la religion de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça jette un froid. Asselin et Opportune, c'est le petit nom de la future, malheureusement n'ont pas reçu les saints sacrements. On est dans une impasse. La foule commence à manifester en faveur des futurs époux. Une bourrée comme un coin se fout à poil et demande à être baptisée. Pour calmer les esprits, Varin propose qu'on lance la cuisine pour ce soir et qu'on remette à demain la décision d'un mariage ou pas. On ne discute pas et on s'exécute. Ça arrange tout le monde. Le repas du soir est somme, mais c'est juré craché, demain on fait gueuleton. Les dieux des cuisines sont avec nous, il y aura mouton à volonté. C'est le don d'un riche marchand qui a pris un raccourci du bois pour aller à la foire. En plus, il y aura écrevisse. Ordre est donné aux enfants de ratisser les torrents alentours. Pendant le repas, on nous demande des précisions sur la mort de Riton. Les nouvelles mettent du temps à voyager, mais arrivent toujours à destination. Bien que tout le monde soit d'accord que c'est bien triste pour la reine, on diverge sur la suite à donner à cette tragédie, sain ou pas sain, tel est le dilemme. Beaucoup pensent que c'est une affaire hautement politique et qu'il faut laisser ça à ceux qui savent. Un résume très bien l'opinion générale, décrétant qu'il n'y a qu'à laisser ça aux gens de la haute et que pendant qu'ils réfléchissent là-dessus, ils ne font pas de conneries ailleurs. La nuit est tombée depuis un certain temps quand je m'éclipse avec une mignonne qui n'a pas résisté très longtemps à mes avances. Elle s'appelle Popa, je la prendrai plus tard, et elle louche de l'œil droit. Je vous promets que ça la gêne pas le moins du monde pour forniquer comme une grande. Je trouve qu'on est bien là, le hibou ulule, la lune est haute, et je sens que la nuit va être câline. Elle le fut. Au matin, Varin et le frère Abelaine, après des discussions longues et avinées dans la soirée, font savoir que le mariage aura bien lieu. Seule condition, le moelle a obtenu qu'une partie de la population reçoive le baptême. Quelques volontaires sont tirés au sort, en plus des futurs époux. Alors, ils se mettent tous à poil, ça on ne saura jamais. Pourquoi ? Et à la queue leu-leu, ils passent devant le frère Abelaine, qui leur verse un seau d'eau sur la tête en disant les paroles adéquates. Un signe de croix, te voilà chrétien. Ce baptême groupé me conforte dans l'opinion qu'ils sont prêts à tout pour avoir de nouveaux clients. J'ai le sentiment confus qu'un jour ou l'autre, ils vont nous pourrir la vie avec leur religion. On boit un coup pour se remettre et on attaque le pas principal, le mariage. Les camarades des futurs époux ont bien fait les choses. Un semblant d'autel a été dressé. Le marié et la mariée sont affublés des plus beaux atours que l'on a trouvés et les spectateurs entonnent ce qu'ils pensent être un chant d'église. Abelin est aux anges et avec forte gesticulation, signe de croix et beaucoup de latin, il unit ses deux aides pour le pire et le meilleur. Pour clore la cérémonie, les deux tourtereaux s'embrassent, déclenchant l'hystérie dans la foule, qui sur l'air des lampions demande que le mariage soit consommé illicto presto et devant témoins. Asselin, grand seigneur, d'un revers de la main fait place nette sur l'autel, installe opportune, lui trousse les jupes, fait tomber ses braies et l'enfourche comme un cerf. La foule l'encourage, et je vous passe les détails, ce qui va devenir dans les minutes qui suivent une bamboula mémorable. Je pense que les générations futures raconteront à leurs petits-enfants les noces d'Asselin et d'Opportune. Je me réveille nu entre un homme velu comme un singe et une des guerrières au firnichon, tout aussi nu que moi. Je préfère ne pas savoir ce qui s'est passé cette nuit, me rajuste, cherche le moine, le trouve et lui dit de préparer les mules. Le camp se réveille laborieusement, mais on trouve quand même quelques valides pour nous indiquer la route des marais. Il faut traverser la montagne en suivant le chemin de transhumance. C'est facile à trouver en sortant de la forêt vers le nord. En gros, si j'ai bien compris, c'est tout droit, on peut pas se tromper. Quand on t'indique un chemin, c'est facile, tu peux pas te tromper. Ensuite, c'est une autre histoire. Embrassade, tape dans le dos et c'est parti. Si j'ai bien, on revient quand on veut, on sera toujours les bienvenus. Le moine est aux anges, il a gagné des nouvelles brebis pour son troupeau. Personnellement, je fais un peu la gueule car nous avons dû laisser une mule en paiement de notre séjour. J'ai pourtant expliqué à Varin qu'on lui faisait cadeau des baptêmes et du mariage, ça lui coûtait pas un rond. Me prenant à part, à voix basse, il m'explique que c'est son statut de chef qui est en jeu. On est quand même des étrangers, et des étrangers qu'on ne rançonne pas, ça n'existe pas chez eux. Leur honneur est en jeu et ce sera une mule, et il nous fait un prix. Donc on repart avec deux mules, une de bas et une de monte. On fera un roulement, on marchera plus. Je ne sais pas si c'est le grand air, mais aujourd'hui on avance lentement, très lentement même. Et même lentement, on atteint les contreforts de la montagne. Ce jour, rien à signaler, si ce n'est le mal de tronche qui me poursuit. La nuit va être calme, l'air est plus frais et les bruits ont changé. La lune est haute quand nous sommes réveillés par les ânes qui braient. On comprend vite pourquoi. À une centaine de mètres, un loup gris fait les 100 pas en nous regardant. J'arme l'arbalète, on calme les mules comme on peut. On attend l'aube et on repart. Le loup suit de loin, le paysage est grandiose. Je n'étais jamais venu là, mais ça vaut le déplacement. Sans le loup, ce serait encore mieux. Au matin, on avait un loup au cul. À midi, ils sont une dizaine à nous tenir compagnie. Ils ont le bon goût de garder une distance respectable, ça nous va. Alors, on marche en file indienne. Celui de devant mène les mules. L'autre, à califourchon, à l'envers sur la dernière bête, ne lâche pas les loups des yeux. Car vous ne le savez peut-être pas, mais le loup est timide. Il ne supporte pas qu'on le regarde dans les yeux. C'est un berger qui m'a filé la combine. Je ne sais pas si c'est efficace, mais pour l'instant, on fait avec. Il faut quand même que je vous dise le paysage. Il y a des chaos de toutes les formes. Des granites à dents, des granites plus fins à mica, des boules, des stèles allongées ou dressées. On marche sur du sable. Le moine m'a dit qu'on appelle ça l'arène granitique. Les bruyères ne sont pas encore en fleurs, les genêts de toute taille puent, et les gensernes attendent d'être transformés en alcool. Disséminés comme posés dans le paysage, des bosquets de bouleaux maigrichons, des pins sylvestres peignés par le vent, et dans le lointain, une forêt de hêtres. Le moine m'abreuve de commentaires naturalistes, je pense que c'est pour conjurer sa trouille des loups. D'ailleurs, cet homme m'intrigue. Il sait lire, écrire, il a des connaissances sur tout, il fornique comme un lapin, il bouffe pour deux, ou jeûne un mois, et se fait chier pour un dieu que personne n'a jamais vu. Ce qui devait arriver, arrive. On est le soir, il nous faut monter le camp. On s'adosse à de gros granits, il y avait déjà un abri sommaire, certainement construit par des bergers. On monte notre toile, et comme le vent vient de tourner et souffle dans nos dos, il me vient une idée pour passer la nuit sans servir de repas au loup. On désherbe succinctement devant notre abri, les mules sont planquées entre les blocs de granit, et on met le feu à la steppe. Oh ben, ça fait pas des grandes flammes, hein. Mais le tapis végétal se consume en direction des loups qui reculent au fur et à mesure de l'avancement du feu. Entre les flammes et le ciel qui rougeoie au soleil couchant, le tableau est satanique. Le moine prie en s'accrochant au mule qui n'apprécie pas à sa juste valeur la situation. Ces bêtes n'ont aucun sens artistique, mais elles finissent par se calmer. On en profite pour se restaurer. Soudain, un bosquet de petits pins s'embrase. Les pommes de pin pètent dans tous les sens, ça fait un peu feu d'artifice. C'en est de trop pour les loups qui disparaissent dans les ténèbres en hurlant. Dire qu'on a bien dormi serait malhonnête, mais on est toujours vivant. Au matin, plus de traces de loups, le feu est mort de sa belle mort, il y a du brouillard et le soleil a du mal à percer. On reprend notre excursion, une torche allumée à la main. On ne sait jamais avec les loups. On ne verra pas le soleil aujourd'hui, les nuages ont remplacé le brouillard et la neige se met à tomber finette et dans le sens du vent. En gros, on la prend en pleine gueule. Les loups se rappellent un autre bon souvenir en hurlant au lointain. On se dit qu'ils nous disent au revoir. La piste blanchit, on laisse tomber la neige, de toute façon on n'a pas le choix. Vers midi, le soleil reprend le dessus, ça nous arrange. On commençait à être trempé et gelé. Le paysage change lentement, moins de chaos, plus d'herbe. On débouche sur une plaine d'altitude. Le terrain en dehors de la piste devient humide, traversé par des rues qui dégoulinent des sommets, et le sentier est devenu une espèce de voie pavée et bornée. On a rejoint la voie romaine. On dirait presque que les mules sont heureuses d'avoir trouvé la civilisation. La pente est douce et le lac des marais miroite en dessous de nous. Une petite heure et on aura vaincu la montagne aux loups. Vous venez d'écouter Jour à neige, jour à peine sur Radio Bartas.